France Inter, le 7-10.
Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est essayiste et directrice du journal Franc-Tireur.
Qui titre cette semaine « L'école de la peur ». Mardi, départ à la retraite anticipée d'un proviseur de lycée parisien. Le chef d'établissement avait exigé de 3 élèves qu'elles retirent leur voile à l'intérieur de l'enceinte scolaire. L'une d'elles a accusé ce monsieur de violence physique et a porté plainte. Plainte classée sans suite. Trop tard, le proviseur était déjà sous le coup de cyberharcèlement et de menaces de mort. Bonjour Caroline Fourest.
Bonjour.
Vous avez entendu Gabriel Attal, Premier ministre, sur TF1 hier soir. Il a annoncé que l'État allait à son tour porter plainte contre l'élève pour dénonciation calomnieuse. C'est inédit. Est-ce que vous diriez que c'est la fin de ce que vous dénoncez depuis des années, à savoir le déni? Est-ce que c'est la fin du déni?
C'est le signe d'une forme de fermeté politique qui est la bienvenue parce qu'elle rassure tout le monde et elle rassure en priorité les professeurs qui ont besoin de l'être lorsqu'ils sont comme ça jetés en pâture par des élèves qui donnent leur version, parfois sur des sites internet islamistes. Encore récemment, cet élève a fait une vidéo sur un site du CCIE, le collectif contre l'islamophobie, qui avait été repoussé et après l'assassinat de Samuel Paty et qui s'est reformé depuis un autre pays d'Europe.
En Belgique.
En Belgique. Ces campagnes-là, elles ont déjà tué et donc c'est bien qu'on prenne la mesure et que désormais on ne laisse plus faire et qu'on dise aux élèves et à leurs parents, qui parfois participent à cette intoxication et à cette intimidation, que l'État ne laissera pas passer.
C'est ça. Donc en fait, c'est le contraire du « pas de vague hein, » qui désigne l'attitude de l'éducation nationale, enterrant des rapports gênants ou enterrant tout ce qui pourrait faire scandale. Là, il y a vague, et il y a une vague qui a été entérinée.
Oui, et c'est beaucoup plus rassurant que, par exemple, en Angleterre, il y a eu un professeur qui a été menacé aussi il y a quelques années pour avoir montré des caricatures de Charlie. Il était placé sous protection policière. Il a dû abandonner aussi son métier de professeur, son école. Son école ne l'a pas soutenu. Un ministre de l'Éducation nationale l'a soutenu, mais très peu de politiques au Royaume-Uni l'ont soutenu. Donc on a la chance en France d'avoir quand même un peu plus de courage, un peu plus d'expérience aussi, malheureusement, sur ces sujets. Mais pour revenir à votre question, Sonia, non, le déni, malheureusement, n'a pas reculé partout. Ça fait 20 ans qu'on espère que le déni est enfin derrière nous, et ça fait 20 ans qu'on voit des gens nous manquer dans la lucidité. Et même des gens qui sont parfois à des postes clés. Je parle pas au niveau politique, encore que je vois bien à qui je pense, au niveau politique, il y a quelques années, au sein de la gauche, défendait la loi, par exemple, de mars 2004. J'ai fait des conférences avec Jean-Luc Mélenchon, je l'ai entendu brillamment défendre cette loi. Aujourd'hui, chez des élus insoumis, quand on voit que Danielle Simonet a été parmi les premières à mettre en doute la version du proviseur, sans pouvoir ignorer que ça le mettait en danger, c'est évidemment décevant, parce que là, on a une partie de la gauche qui, hier, était laïque, qui, aujourd'hui, reprend des éléments de langage désintégristes.
Mais là, ce qu'on voit, c'est que le rectorat s'est emparé de l'affaire, que le ministère s'est emparé de l'affaire, et s'est même rendu sur place avec la directrice de l'Académie, que les forces de l'ordre ont mis le proviseur sous protection, le lycée sous protection, que la justice s'est mobilisée, qu'il y a déjà eu 2 personnes interpellées, qu'il y a une personne qui sera jugée dans un mois. Est-ce que vous parleriez de capitulation? Parce que c'est un mot qui surgit de partout dans la presse depuis hier. Capitule. On capitule face à la menace islamiste.
Non, ça c'est du vocabulaire politique de partis qui essaient de toujours vouloir créer une opposition là où il n'y a pas lieu d'être. Non, je ne pense pas qu'il y ait capitulation. Il y a une vraie prise en charge par les pouvoirs publics très sérieusement de cette menace, de cette situation.
C'est l'assassinat de Samuel Paty qui a fait basculer, à votre avis, la conscience politique.
Oui, ben encore heureux que quand même on ait un peu justement gagné.
Donc il y a un avant et un après.
Oui, alors après, encore une fois, je note que justement, lorsqu'on essaie de mettre en place des mesures, par exemple de se battre sur les réseaux sociaux contre la propagande qui peut tuer des professeurs, on n'a pas l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui, là aussi, encore une fois, se font le relais des éléments de langage des intégristes, manquent à notre bouclier, manquent à cette lucidité. C'est ça que je regrette. Mais je parle d'éducateurs, de fédérations d'éducateurs qui sont noyautées. Je parle de syndicats, d'enseignants. Le Sud 93 qui parle de lois racistes et sexistes à propos de la loi de mars 2004 ou de l'abaya. On a même des militants de gauche qui nous disent que c'est sexiste d'interdire ou de protéger l'école laïque contre l'abaya, contre le voile, c'est-à-dire contre des symboles pensés pour faire honte au corps des femmes. On vit où? C'est quoi leur boussole, en fait?
Le Premier ministre a précisé hier, dans son intervention à TF1, la laïcité est sans cesse mise à l'épreuve. On le voit, il y a une forme d'entrisme islamiste qui se manifeste notamment dans nos établissements scolaires. Est-ce que vous utiliseriez les mêmes termes que Gabriel Attal? Vous parleriez d'entrisme islamiste?
Mais malheureusement, c'est le cas, je vous le dis, c'est le cas.
À coup de butoir, hein. a-t-il précisé.
Mais c'est en tout cas, ça finit à coup de hachoir hein, parfois, cette forme de déni et cette forme de paralysie aussi qui empêche de prendre toutes les mesures. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus important aujourd'hui pour des professeurs qui sont confrontés à des élèves menteurs ou qui ont appris le langage de la victimisation islamiste, c'est d'être rassurés dans le fait de pouvoir leur tenir tête auprès de leurs collègues et de leur hiérarchie. Pour ça, il faut des collègues courageux, avec des syndicats courageux, qui ne vont pas leur expliquer qu'il ne faut pas faire de vagues ou que c'est raciste et islamophobe de faire appliquer la loi. Et il faut des académies courageuses, donc il faut des recteurs courageux.
Mars 2024, l'affaire du lycée Maurice Ravel arrive 20 ans jour pour jour après la promulgation de cette loi qui a fait date et que vous avez mentionné, Caroline Forest. Mars 2004, l'interdiction du signe du port du signe religieux ostentatoire à l'école. Comment vous retraceriez ces 20 années qui nous séparent de 2004, hein, vous qui avez publié un livre hein, qui s'appelait Le génie de la laïcité en 2016, c'était presque à mi-étape quoi.
Mais je sais pas combien de livres j'ai dû essayer d'écrire pour expliquer cette loi, que j'ai réussi à expliquer au Yémen et que j'arrive pas toujours à faire comprendre à des militants de gauche en France. Donc c'est terrible en fait, si vous voulez, c'est terrible. Ça fait 20 ans qu'on est plusieurs, très nombreux, à s'user, à essayer de faire passer quelque chose d'assez simple en réalité, mais il nous manque, encore une fois, le soutien de tout le monde, de tous les acteurs de cette pédagogie possible, parce qu'en réalité, on a une jeune génération qui la comprend très mal, cette loi, et cette jeune génération, elle comprend très mal, en général, le débat d'idées. Elle est très identitaire, cette génération.
C'est ce que dit, par exemple, Agnès Anderson, qui est proviseure et secrétaire générale du syndicat IDFO, qui était citée dans Libération il y a 15 jours, et qui dit « En 20 ans, c'est la compréhension de la loi même qui a changé, le modèle anglo-saxon qui veut que chacun vienne comme il est, a gagné du terrain en France. »
Bien sûr, parce que c'est le plus simple à comprendre. En fait, pour comprendre l'histoire de l'école laïque et sa philosophie, il faut justement avoir une vraie culture philosophique. Et c'est peut-être ce qui manque à cette génération, c'est de réapprendre la philosophie de cette école qui cherche à leur enseigner un esprit critique et une ouverture d'esprit qui va bien au-delà du respect de chacun dans son identité, qui va aussi au fait de respecter et d'accepter le débat d'idées et de ne pas le confondre avec une agression envers les identités. Et cette confusion, elle est entretenue par des propagandistes qui sont très actifs dans leur téléphone portable, qui sont très actifs sur TikTok.
Notre journée écran hein, aujourd'hui.
Voilà,
on s'intéresse à des questions qui seront soulevées, hein, évidemment,
oui, parce que,
de l'impact de tout ça à travers les réseaux sociaux. Et sur la démocratie en général. Justement, des sondages pour appuyer ce que vous dites, Caroline Forest. Le sondage Kantar CNRS publié en décembre 2023. 43% des jeunes de 18 à 30 ans sont favorables à ce que les élèves dans les lycées publics puissent porter des signes religieux ostentatoire. Le sondage CSA, qui avait fait couler pas mal d'encre, qui enfonce le clou, 50% des jeunes de 18 à 24 ans qui considèrent que la laïcité est une source de discrimination. Et ce fameux sondage IFOP, lui aussi, qui a été beaucoup relayé, 78% des Français musulmans estiment que la laïcité telle qu'elle est appliquée par les pouvoirs publics en France est discriminatoire.
Oui, mais encore une fois, ce ne sont pas que les élèves musulmans, c'est toute une génération, catholique, musulman ou ni l'un ni l'autre, qui croit vraiment, qui ne comprend pas la différence entre protéger une école laïque pour enseigner l'égalité à tous, le temps de se former un esprit critique et de pouvoir choisir par soi-même de porter ou non un signe religieux, ils ne comprennent même pas cette démarche. Mais c'est une génération qui a du mal à comprendre toute restriction où tout est possible à partir du moment où je le veux. Et donc là, il y a une verticalité à remettre en réalité. Et c'est le défi de tous les enseignants qui va bien au-delà de la question religieuse. Tous les enseignants doivent être un peu resacralisés, entre guillemets, dans leur statut.
Alors, il y a leur statut, il y a la vie quotidienne dans un établissement scolaire, et puis il y a le contenu de l'enseignement. Parce que le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale s'inquiètent d'une hausse du nombre de signalements pour contestation de l'enseignement. Là, il s'agit d'élèves qui contestent le contenu de cours. Est-ce que c'est un glissement, Caroline Forest ? Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de nouveau ?
Non, parce que c'était déjà le cas et déjà nos débats au moment de la loi de mars 2004. La commission Stasi a entendu des dizaines de professeurs leur dire déjà exactement ça il y a 20 ans.
En 2004 ?
En 2004.
Sur les contenus de l'enseignement ?
Bien sûr, ne croyez pas. Et le rapport Aubin qui a été enterré par François Fillon parlait déjà de ça. Du fait que ça n'était pas qu'une question de revendiquer un signe religieux, c'est aller avec la contestation globale de la transmission de savoir, de cours d'histoire sur la Shoah, du fait de pouvoir aller à la piscine quand on est une fille. C'est une contestation globale. globale. Donc, à un moment donné, ceux qui pensent pouvoir acheter la paix scolaire en cédant sur les signes religieux ne comprennent pas qu'ils cèdent, en fait, et trahissent toute la philosophie de l'école laïque de Ferdinand Buisson, qui est de former un esprit critique et citoyen.
Merci, Caroline Fouest.